Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Le débrief par Radio VFM et Foot Normand, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. L'actualité du ballon rond dans l'ensemble de notre belle Normandie. On a parlé de l'actualité de notre invité du jour, Johan Gallon. On a évoqué le week-end difficile de nos trois pensionnaires de Ligue 2. Place dans un instant à voler Coupe de France avec un décryptage du 6ème tour qui se jouait ce week-end. Pour mener à bien cette ultime séquence de la semaine, ils sont toujours avec moi en studio, toujours en grande forme. Mathieu Billot de Foot Normand, de nouveau bonjour.
Rebonjour Aurélien.
Et Christophe Lécuyer de Radio VFM, reposé comme jamais après un lundi férié. De nouveau salut.
Bonjour Aurélien.
Et Johan Gallon, notre invité exceptionnel pour ce 5ème épisode de la saison. Soyez à nouveau le bienvenu Johan.
Bonjour, rebonjour à tous.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
On parle donc de Coupe de France dans ce débrief avec un retour sur le 6ème tour qui s'est joué tout au long du week-end. On va commencer évidemment par vous redonner tous les résultats dans le choc 100% National 3 à Évreux qui gagne 3-0 du côté d'Alençon. Le FC Rouen qui élimine Cherbourg 3-0, N2 contre N3 ici. Saint-Lô qui met fin au beau parcours de la SPTT Caen. Le club de National 3 s'impose 1-0 face aux pensionnaires de Régional 1. Duel 100% Régional 1 remporté par Trouville-Deauville sur le terrain de Pavie 5-0. Duel 100% R2 qui tourne en la faveur de Val-de-Reuil, 2-0 face à Saint-Père. Enfin, le CMS Oissel bousculé du côté de Saint-Nicolas d'Aliermont qui s'impose finalement 2-1, N3 contre R2. Mathieu Billot, une bonne nouvelle ce week-end pour notre invité de la semaine dernière.
Oui, le FC Saint-Julien Petit-Quevilly de Moustapha Sissalem, qui était avec nous la semaine dernière, donc qui a remporté son duel contre Onfreville entre deux clubs de R3. Ils se sont imposés 1-0 et du coup, ça sera les petits poussets normands présents au 7ème tour.
On leur a porté chance.
On va dire qu'on l'a pas porté malchance en tout cas. Et je précise juste que Saint-Nicolas c'est de la R3.
R3 oui, ouais, j'ai dit.
C'était juste une petite
précision. Oui,
il y avait trois clubs de R3 qui restaient encore en lice pour le 6ème tour.
Alors messieurs, l'exploit de ce 6ème tour, il est à mettre au crédit de l'AG Caen, le pensionnaire de National 3 qui a éliminé l'US Granville, votre ancienne équipe, Johan, qui évolue, on le rappelle, une division au-dessus en National 2 avec une victoire 3-1. Bon, Johan, quand on parle de Coupe de France, forcément, ça procure des émotions. Pourquoi, à vos yeux, ça a toujours été une compétition si particulière ?
Bah, ça ne l'a pas été au départ, ça l'est devenu. Je l'ai déjà raconté l'anecdote, mais je vais la raconter encore une fois. C'est que
on ne s'en lasse pas.
Quand j'ai commencé à entraîner, donc j'avais la réserve à Nice, donc on jouait pas la Coupe de France. Et après, je suis arrivé à Granville. Et la première année, moi, le seul objectif, c'était tout de suite la montée en CFA2. Donc, quand on a commencé la Coupe de France, j'avais mis pas l'équipe bis, mais presque. J'avais reposé mes joueurs parce que voilà, le seul objectif, c'était la montée. Et j'ai rencontré Philippe Clément. Et Philippe, ce jour, m'a dit: Jo, la Coupe de France, c'est la plus belle chose que tu peux vivre avec un club amateur. Joue-la à 100%, tu verras, tu vivras des belles émotions. Donc je l'ai écouté, parce que je pense qu'il faut écouter tout le monde. Et puis l'année d'après, bah, je l'ai joué à 100%. Et puis là, ça a été le début d'une aventure, d'une histoire d'amour avec cette compétition. Ça a été quelque chose de riche, de fort. Et là, vous dépassez, encore une fois, et je l'ai pu le dire sur plusieurs radios, vous dépassez le côté football. Vous emmenez des gens avec vous, vous faites rêver des milliers de personnes, vous créez quelque chose qui vous ne pouvez même pas le décrire. Vous ne pouvez pas le décrire, j'ai tellement de choses dans ma tête qui me reviennent. Et c'est souvent, c'est pas les matchs, c'est souvent la queue au guichet pendant des heures et des heures. Des gens qui sont arrivés à 2h du matin pour être devant le Leclerc. La queue de voiture de Granville jusqu'à Dornano. Ou le retour des vidéos que j'ai... C'est ça en fait qui me reste. Donc je mets toujours le côté terrain avec les supporters, avec l'histoire du club. C'est ça qui est important et vous en tirez. Pour ça, quand vous avez créé ça, à jamais, à vie, les gens ils s'en rappelleront quand ils vont vous croiser. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. J'ai pas de superlatif pour en parler, tellement c'était fabuleux et beaucoup d'émotions. Et le pire, c'est quand je regarde les vidéos. Et ma femme, des fois, me retrouve dans un coin de la maison, en train de pleurer à regarder les vidéos. Et ça me donne de la force. Une force incalculable, indescriptible, comme j'ai pu donner à mes joueurs et qui me l'ont rendu au centuple sur le terrain. C'est la Coupe de France. Moi, il y a toujours le côté terrain, encore une fois, de la qualité de ce que vous mettez en place. Mais au niveau moral, mental, c'est du surpassement total. Et ça c'est beau, ça c'est quelque chose de fantastique, d'arriver à convaincre vos joueurs, parce qu'au départ, quand vous jouez une équipe de Ligue 1 ou Ligue 2, vous savez pertinemment que les joueurs en face, ils sont plus forts. Mais d'arriver à convaincre vos joueurs pendant une semaine, que sur un match, ils sont capables d'être plus forts que ces joueurs-là. Et ça, c'est fantastique d'arriver à amener vos joueurs à pouvoir réaliser ce genre d'exploit.
Mathieu Billot, foot normand.
Ouais, ce qui est très fort à l'époque de Granville, quand vous dirigez l'équipe, c'est que vous n'avez pas fait une épopée, un exploit, comme c'est souvent le cas en Coupe de France, hein, on est marqué. C'est qu'il y en a eu plusieurs. Il y a peut-être eu... moi, j'en ai trois qui me reviennent en mémoire, mais il y en a peut-être eu plus. Hein. Il y a forcément cette première épopée qui vous emmène jusqu'à Dornano en quart de finale contre l'OM. Il y a cette victoire contre Bordeaux. Celle-ci à Louis Dior, un scénario assez exceptionnel, hein, vous imposez 2-1 en prolongation. Je crois que l'égalisation, c'est à la dernière minute, si je me trompe.
C'est à 7 secondes du temps additionnel.
Du temps additionnel. Il y a eu le dernier parcours qui vous a amené jusqu'en 16e de finale, de nouveau contre l'OM, de nouveau à Dornano.
Le match à Chambly en 8e.
Voilà, il y en a tellement, en fait, c'est ça qui est fort, en fait, peut-être, c'est de répéter ça, en fait, parce qu'en général, bon, quand on est un coach, un club amateur, on le fait une fois, pas deux, ni trois, et c'est ce que vous avez réussi à faire avec vos joueurs et avec votre club. C'est ça aussi qu'il faut peut-être mettre en avant, souligner, c'est cette répétition.
Oui, tout à fait, d'arriver à faire un exploit une fois sur... Vous êtes énormément dépendant du tirage dans la Coupe de France, des événements qui peuvent se passer, des blessés, des suspendus, du contexte de match, d'un arbitre. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais de le répéter pendant 3, 4, 5 ans, ça c'est quelque chose de fabuleux. Et après, il n'y a pas de recette de Coupe de France. La seule chose, moi le conseil que je peux donner à chaque club, chaque président, chaque entraîneur, c'est que cette compétition, elle faut pas tricher. Quand vous trichez dans cette compétition, vous prenez le bâton à chaque fois. Quand vous ne respectez pas l'adversaire dans cette compétition, à chaque fois, la plupart du temps, vous prenez le retour du bâton. Il ne faut pas tricher. C'est une histoire d'amour, cette compétition. Et pour rêver, il faut prendre ça vraiment dès les premiers tours. Moi, à chaque fois, dès les premiers tours, j'ai respecté tous mes adversaires, que ce soit des R3, des R2. On a toujours respecté les adversaires. On a toujours mis l'intensité nécessaire. Et puis, si on devait gagner 5, 6, 7, 8, 9, 0, fallait le faire, parce qu'il faut respecter l'adversaire et cette compétition.
Mais parfois, il y a aussi des exploits, et vous êtes bien placé pour le savoir, Johan. Et pour qu'il y ait des exploits, il faut aussi qu'il y ait des équipes hiérarchiquement supérieures qui se fassent sortir par des équipes plus petites, entre guillemets. Dans ces moments-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé dans la semaine, il y a quelque chose sur quoi on n'a pas assez insisté. On l'a vu avec Granville, évidemment, cette semaine. Ça vous est aussi arrivé, évidemment. On retient plus les épopées, parce que vous avez fait beaucoup d'épopées, mais ça vous est arrivé, comme tous les coachs, d'être battu par une équipe hiérarchiquement inférieure. Après coup, ça, on se dit quoi? Dans la semaine, j'ai peut-être pas forcément insisté ce sur quoi j'insistais d'habitude.
Vous le sentez? Moi, je savais, avec les équipes que j'avais, je sentais quand je pouvais réaliser quelque chose de fort. Ma dernière année à Granville, je me fais sortir par mon ami Tony Rouillon.
Par flair, donc.
Hein. Par flair, mais je savais très bien que ce jour-là, que cette année-là, on ferait pas de parcours en Coupe de France. Quand vous partez, que vous avez des joueurs qui baillent dans le minibus... Vous allez où? Vous allez faire un match de Coupe de France? Moi, j'avais deux joueurs à côté de moi, parce que je conduisais minibus, je les ai vus bailler discrètement. Je me suis dit, mais aujourd'hui, je vais rien faire. Je vais rien faire. Et en effet, ce jour-là, on est passé complètement à travers de notre match. Est-ce que moi, j'ai pas préparé mes joueurs? Je savais que j'allais pas faire de parcours. Je l'ai peut-être moins bien préparé que les autres matchs. Parce que quand je préparais des grands matchs de Coupe de France, vous pouvez demander à mes joueurs, j'étais pas le même. Je les ai emmenés des fois, même à travers des séances, à se sublimer, à croire en quelque chose d'irréel. Il y a un travail psychologique énorme, 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 énorme. Vous devenez un acteur, mais l'acteur, on en parle souvent à la causerie, mais vous devenez acteur dans vos séances. Je me souviens des séances d'entraînement où on leur faisait en plein hiver sur le synthétique à Granville, avant de jouer Bordeaux, où ils étaient dans un travail athlétique de couper la coupelle, sur ce qu'on fait jamais, mais vraiment pour travailler quelque chose de spécifique, où j'étais au milieu d'eux et je faisais comme s'ils devaient aller chercher l'objectif, ils devaient aller chercher des joueurs, ils toujours parlaient des joueurs de Bordeaux, qu'ils étaient capables de ça. Et les joueurs, quand ils m'en parlent, après que tout ça soit fini, ils me disent « Mais coach, ce jour-là, vous étiez incroyable, vous nous amenez dans quelque chose. » Et personne ne rigole quand c'est comme ça. Vous faites la même chose quand c'est un match de championnat. Les joueurs, ils rigolent. J'ai fait des causeries, des moments où j'ai pu sur le plagoussé d'une marche avant le match, je sais plus quel match, où je les ai réunis, je leur tapais dans la poitrine, je leur regardais droit dans les yeux, je les secouais. Enfin, des moments incroyables, mais je savais pourquoi je faisais ça. Et parfois, quand vous y repensez, vous dites « Mais on s'est mis dans un état second. » Mais vous vivez quelque chose, vous croquez dans la vie à pleines dents, c'est quelque chose de surréaliste. Moi, jamais j'aurais pensé dans ma carrière d'entraîneur réaliser, et comme tu le disais Mathieu, 3, 4 fois, 5 fois. Et je pense que J'ai pas de regrets parce que je suis allé au bout des choses. La seule chose que je peux, qui m'ennuie un peu, c'est que je pense que tout le monde me parle du premier match de Marseille où on perd 1-0 et qu'on n'était pas loin de l'exploit. Moi, je pense qu'on est très très loin de l'exploit ce jour-là parce que j'ai un Jérémy Immes qui est Jésus dans les buts. Et par contre, le deuxième match contre Marseille, là j'ai beaucoup de regrets parce que je pense que ce jour-là, on doit, si on ne prend pas le carton rouge à 75e, je pense qu'on peut les amener très loin. On a fait un très grand match avec beaucoup de possession, on les a vraiment inquiétés. Ce jour-là, je pensais qu'on pouvait les embêter. Et mon deuxième regret, c'est le match à Chambly parce que celui-là, on ne doit jamais le perdre. Jamais, jamais, jamais. Et je pense qu'on n'était pas loin d'un deuxième quart de finale et j'y croyais fortement. Mais et je finirai par ça, c'est que. Et on a eu des aventures humaines, mais un coach sans ses joueurs, il n'y a rien. Donc ce jour-là, c'est que j'ai réussi à amener mes joueurs à croire en moi sur plusieurs années et pour atteindre des objectifs en commun. Mais je pense souvent, pour mes premières aventures, même à tous ces joueurs individuellement. Je pense à Tommy Hinterhainer qui met ce tacle contre Bourg-en-Bresse qui nous permet d'aller en quart de finale dans un Louis Dior en fusion, dans un terrain gras et qui tacle le premier poteau et qui marque ce but qui nous fait passer dans un autre monde. Et Tommy, j'y pense très très souvent à Tommy Hinterhainer.
Ça crée des liens, ça, avec les joueurs aussi. C'est-à-dire que quand on vit une épopée comme ça, forcément, après chacun vit son parcours. Les joueurs, certains ont quitté l'US Granville, vous aussi, Johan, mais vous avez gardé contact et ça restera, quoi qu'il arrive.
Mais bien sûr, j'ai des joueurs qui m'appellent, j'ai des joueurs qui communiquent, alors de temps en temps, d'autres c'est un peu plus souvent, mais oui, j'ai des joueurs qui je suis en relation, et c'est marrant, je vais vous parler d'une personne, et je l'ai déjà dit, hein, c'est pas le plus grand joueur au niveau technique que j'ai entraîné, mais dans quelques jours, dans une semaine, il va fêter ses 40 ans, et je suis invité, c'est Marius Mucina. Et Marius Mucina, c'est un exemple d'intégration sociale, c'est un exemple d'homme fabuleux. Lui, c'est quand je parle de Coupe de France, je pense à lui très souvent parce que il a été capable de choses incroyables et on est devenu amis. Et Marius, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense qu'il m'aime beaucoup parce qu'il pensait jamais que dans sa carrière de joueur, il allait vivre ce qu'il a vécu. Et moi, je suis très fier de l'avoir vécu avec lui. Mais voilà, et j'en ai d'autres, hein, mais ça serait trop long d'en parler. Il y en a qui j'ai gardé aussi des liens forts, Jérémy Metz, Jonathan Beaulieu, des joueurs Melvin Vieira, c'est des joueurs avec qui on a vécu des choses, personne ne pourra nous l'enlever, c'est à vie.
Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a des joueurs de coupe, il y a des fois des coachs de coupe, il y a des équipes de coupe, il y a aussi des joueurs de coupe du coup qui savent se sublimer sur un rendez-vous?
Je pense qu'un joueur seul n'est pas capable de sublimer, il faut qu'il y ait un contexte pour sublimer les joueurs. Et le contexte, il vient de la part de tous, c'est-à-dire du président, des membres du bureau, des supporters, du coach, des accompagnants. Vous vous rappelez de Maxime Toucran, mon intendant qui est sourd et muet. Maxime, une fois qu'il avait vécu, lui pensait qu'on pouvait gagner la Coupe de France. Donc quand on jouait l'OM, il pensait qu'on allait battre l'OM. Et c'était incroyable. Et moi, quand j'arrivais des fois dans le doute, dans des moments un peu plus durs, parce que ça demande beaucoup d'un... J'arrivais au Clubhouse, on buvait toujours le café avec Fabio et lui... Il me donnait de l'énergie incroyable parce qu'il pensait qu'on allait battre l'OM. Il vivait un rêve éveillé. C'était fabuleux. Et un garçon comme ça m'a parfois donné beaucoup, beaucoup de force à des moments où j'étais un peu plus faible. Vous vous rendez compte, ça tient un peu de choses. Et ça, vous le traduisez. Il parle pas, Maxime. Et ça, il le traduit à travers ses gestes, à travers son regard et à travers les sentiments qu'il vous fait partager quand il vous prend dans ses bras. Et vous vivez voilà, c'est ce genre de choses. Et Maxime Toucran, c'est... Je suis fils unique, mais quelque part, c'est un peu mon petit frère. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime à vie. Voilà.
Alors, Johan, pour raccrocher un petit peu le wagon de l'actualité, cette Coupe de France 2021-2022, ce week-end qui marque l'élimination de l'US Granville, pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait en première partie tout à l'heure, avec finalement le recul, le départ qui a été le vôtre de ce club, ça vous fait quoi encore, là, aujourd'hui, quand vous voyez votre club se faire éliminer de la Coupe de France?
Ben, je suis triste. Je suis triste parce que si Granville est éliminé, ça veut dire que les supporters ne vont pas vibrer. Le club ne va pas vibrer non plus. Et puis, vous savez, il y a autre chose aussi. Hein, c'est que comment on est passé de la DH à avoir des joueurs à temps plein au club et s'entraîner tous les jours, c'est uniquement ce qu'elle nous a rapporté au niveau financier la Coupe de France. Et ça, c'est l'USG sans ce passage. Ces aventures, parce qu'il n'en faut pas qu'une, il en faut plusieurs, aventures en Coupe de France, elle a permis quoi? De passer un palier au niveau des partenaires, parce qu'on a eu beaucoup de partenaires qui sont arrivés grâce à tout ça, donc plus de partenaires, un budget différent, des rentrées d'argent non négligeables, des entrées payantes, des buvettes, de la manne financière de la FFF. Voilà, tout ça, ça vous fait passer un palier. Et c'est pour ça que quand je dis on a créé quelque chose, on a créé ça, je sais quelle est l'attente des supporters à Grandvilliers. Et je sais ce qui, malheureusement, ils vont pas vibrer cette année. Mais je souhaite à cette nouvelle équipe dirigeante qu'ils puissent un jour vibrer comme nous on a pu vivre. Vibrer, mais ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Et peut-être que moi, c'était peut-être les dernières fois que je vivrais une telle expérience en tant qu'entraîneur. Mais faut aussi penser que peut-être que Grandville ne revivra plus jamais ce qu'il a vécu. Et ça, c'est pas parce que je suis plus au club, hein, sans prétention, mais peut-être qu'ils revivront plus jamais de leur histoire ce qu'on a pu vivre. Et ça rend parfois les gens malheureux, parce que les gens, ils sont en attente. Quand vous leur avez donné, et du jour au lendemain, vous donnez plus, oui, vous allez... La seule chose qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir que des critiques. Et puis quand vous êtes 13e en championnat, ça devient un peu plus compliqué, mais j'espère qu'ils vont relever la tête, et puis que voilà, la transition... Faut pas croire que j'en suis heureux, j'en suis triste parce que ça a été 8 ans d'un travail acharné, 8 ans pour monter, on a laissé avec Dominique Gortari un club sain financièrement, sain sportivement, et j'espère qu'une chose, c'est que Grandville va faire une meilleure deuxième partie de championnat, et puis va se maintenir pour après enclencher quelque chose de différent. Je souhaite que du bonheur à mon ancien club.
Johan, l'US Grandville éliminé de la Coupe de France, vous le disiez tout à l'heure, 13e de son groupe A de National 2. Dans cette situation, certains dans l'entourage, plus ou moins proches du club, certains supporters également, c'est parti des tribunes de Louis Dior il y a encore quelques jours, demandent aujourd'hui votre retour. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je suis pas insensible à ça, parce que quand vous avez vécu autant de moments, vous connaissez le club par cœur, je sais ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, voilà, j'ai pas de contact aujourd'hui avec la direction, j'ai pas de contact avec le nouveau coach, j'ai contact avec personne. Mais vous avez toujours des gens qui sont au match. Vous avez toujours, moi, j'ai des gens, des fois, ils m'appellent en FaceTime pendant le match. Je réponds jamais. J'ai pas envie de répondre parce que je sais que ça va pas. Je sais que ça joue pas comme ils souhaiteraient. Je sais que les résultats sont pas en adéquation à ce que les gens les attirent. Et moi, je veux pas me servir de ça. Je suis triste des résultats quand l'USG ne gagne pas. Et ce que je souhaite, c'est que la nouvelle direction fasse perdurer ce que nous, on a fait pendant 8 ans. Mais il ne faut pas confondre, parfois, le football, il y a des gens, ils sont professionnels du football. Il y a des gens, ils sont chefs d'entreprise, ils sont professionnels dans leur entreprise. Mais le football est un monde à part. Et on peut pas du jour au lendemain penser qu'on va arriver. C'est pas parce qu'on a réussi dans le monde professionnel qu'on va réussir dans le football. C'est vraiment strictement à part. Et je pense qu'il faut savoir s'entourer, savoir faire confiance aux gens, savoir, savoir se faire aider parfois. Et je pense qu'elle est peut-être là, la transition. En tout cas, je pense qu'il y a une équipe motivée. Ils sont en train de se rendre compte aussi que le football, c'est pas facile. C'est même très dur. Mais on verra demain ce qu'il en est. Mais quand je vois des joueurs tristes, un club triste, des supporters qui m'appellent, qui vont parfois, quand ils m'appellent, ils vont se dire, il va rebondir, il va être content. Mais non, à chaque fois que j'ai un appel, croyez-moi, je réponds pas à tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui se gargarisent des mauvais résultats du club, mais en tout cas, moi, c'est pas ma philosophie, et voilà, il y a même des joueurs qui m'appellent, parce que la situation est pas facile, mais moi, de ma position, je peux pas faire grand-chose.
Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France pour nos 8 rescapés normands sera effectué ce mercredi à 11h30 sur FFF TV. Marquera donc l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, le Stade Malherbe, le HAC et QRM. Messieurs, toutes les bonnes choses ont une fin. On est arrivé au bout de ce 5e épisode du débrief de cette saison. Johan Gallon, merci de nous avoir accordé ces quelques instants en studio.
Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Et puis, je trouve que c'est top ce que vous faites de mettre la région en avant. Parce que on le faisait avec Sylvain, hein, le Touzé, qui j'ai une pensée quand je suis avec vous aujourd'hui.
Qu'on salue Sylvain.
Voilà, et ça a été des moments fantastiques, mais pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que j'ai envie que ça perdure. Et ce que vous faites, le club régional en a besoin, de mettre en avant les valeurs de notre région, le football de notre région. Donc continuez, et moi je serai toujours là pour passer un moment avec vous dans les années à venir, dans les mois à venir.
On va rappeler, vous interviendrez régulièrement dans l'émission pour nous apporter votre regard sur le stade Malherbe et également sur l'actualité du football normand, Johan.
Ouais, c'est un réel plaisir et je vous remercie de m'avoir appelé pour partager du temps avec vous.
Merci également à Christophe Lécuyer, le pensionnaire permanent de Radio VFM, et à Mathieu Billot, la tête pensante de Foot Normand. Salutations à notre technicien Quentin, encore une fois au top depuis la régie. Merci enfin à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous retrouverez les trois parties de ce débrief comme chaque semaine sur le site vfmradio.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube de Foot Normand. On se retrouve exceptionnellement dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de Radio VFM et à la lecture de Foot Normand.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.